Le support athlétique est une présentation des biscuits Félix et Norton, une légende montréalaise depuis 1985. Il y a deux sortes de personnes dans le monde, les sucrés et les salés. Les salés sont généralement très choyés pour la livraison à domicile parce qu'il n'y a rien de plus simple que de se commander de la pizza, du poulet ou des sous-marins. Mais là, c'est le tour des sucrés de se faire dorloter. Félix et Norton disposent maintenant d'un nouveau service de livraison à domicile pour le lendemain, partout dans la grande région de Montréal. Vous avez juste à commander en ligne avant 21h et vous allez recevoir vos délicieuses gâteries le lendemain. Il vous suffit d'aller sur felixandnorton.com et de cliquer sur « Livraison Montréal ». Vous allez pouvoir économiser 10% sur votre première commande grâce au support athlétique en entrant le code HOCKEY. Commandez entre autres la pâte à biscuits surgelée et prête à cuire de Félix & Norton. Vous sortez le sac du congélateur quand vous voulez et vous faites cuire autant de biscuits que vous le voulez en seulement 10 minutes. C'est la meilleure façon de se regrouper en tes périodes. On vous recommande leur célèbre ménage à trois, mais il y a beaucoup d'autres produits et saveurs qui ne sont pas disponibles ailleurs, comme les nouvelles bouchées Morsels, enrobées de chocolat belge, et la toute nouvelle pâte à biscuits vegan à base de plantes qui s'appelle Au Naturel. Ce n'est pas parce qu'on est vegan qu'on n'a pas le droit d'être décadent. Alors, des biscuits moelleux en écoutant le hockey, il me semble que ça fait changement des nachos et des ailes de poulet. Bonjour tout le monde, bienvenue au Super Athletic, votre podcast portant sur le Canadien de Montréal par athletic.com. Je suis Marc-Antoine Godin et en ce lundi 10 août, il me fait plaisir de retrouver mon fidèle acolyte Arpin Basu. Arpin, bonjour, bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle les gens nous écoutent, mais ça va bien?
Oui, super bien, on se prépare pour une vraie série, des séries éliminatoires, puis je sais pas, j'ai de l'énergie, je suis excité. Ça va être le fun de voir comment le Canadien va être capable d'affronter une équipe qui est l'équipe de l'heure dans la Ligue nationale en ce moment, les Flyers de Philadelphie. Honnêtement, le plus je regarde cette équipe-là, le plus j'essaie de trouver c'est quoi exactement les faiblesses que le Canadien pourrait exploiter, mais c'est quoi... j'ai pas le même feeling concernant les Flyers après avoir un peu plus regardé plus profondément leur formation et tout ça que j'avais au moment où les Flyers a battu le Lightning de Tampa Bay pour connaître effectivement que ça serait l'équipe que le Canadien va affronter en première ronde.
Ouais, ben écoute, c'est parce que c'est une équipe qui a peut-être moins de gros noms, de grosses vedettes, bien que bon, c'est sûr que Claude Giroux puis maintenant Sean Couturier, c'est des gros noms, mais c'est pas... Tu sais, tu parles du Lightning, il n'y a pas de Stamkos, là, il n'y a pas de Kucherov, mais c'est une équipe qui est très, très bien équilibrée, puis j'ai l'impression que c'est une équipe aussi qui, si ça ne fonctionnera pas à gauche, ça va fonctionner à droite. Ils ont des plans B à plus divers endroits dans leur alignement. Tu sais, Claude Giroux joue à l'aile gauche de Couturier sur le premier trio, mais il y a eu des matchs cette année où il a joué au centre. Il y a un attaquant qui était d'abord et avant tout reconnu pour ses capacités défensives, Scott Laughton, qui en ce moment est utilisé à l'aile sur le trio de Kevin Hayes. Lui aussi, il pourrait être amené au centre si Alain Vigneault juge qu'il en a le besoin. En défense, ils ont Shane Gostisbehere qui se bat pour un poste régulier. Il est sixième ou septième. Tu dis, OK, là, en termes de profondeur, en termes de polyvalence de cette formation-là, ils ont vraiment beaucoup d'outils, puis c'est le genre de choses qui pourraient vraiment causer des problèmes aux Canadiens, là.
Oh, absolument, parce que dans le fond, tu sais, c'est un peu l'opposé des Pingouins, dans le sens où, tu sais, les Pingouins, leur troisième et quatrième trio n'étaient pas nécessairement mauvais, mais ils n'étaient pas nécessairement super forts. C'est pas quelque chose auquel il fallait que tu y penses, parce que toute ton concentration était pour tu sais, contrer les trios de Crosby et Malkin, mais là... Là, c'est quelque chose d'autre. Tu sais, quand t'as un James Van Riemsdyk qui a déjà marqué 30 buts dans la Ligue nationale, puis juste sur ton troisième trio, là, ça commence à devenir juste une casse-tête qui est quand même assez particulièrement différent pour Claude Julien que ce qu'il a affronté contre les Pingouins, dans le sens où comment il organiserait ses trios, comment il va décider c'est quel trio affronte quel trio des Flyers. Les décisions, les paramètres de ces décisions-là sont quand même assez, sont non seulement différents, mais c'est très différent. C'est vraiment tout un autre problème pour lui et son personnel d'entraîneur. Puis on sentait un peu, tu sais, il y a eu une disponibilité avec Claude dimanche. Puis je sais pas, il avait l'air stressé. il était pas super fin. Je pensais que, tu sais, à trois jours de sa série, puis après avoir remporté la série contre Pittsburgh, il serait de bonne humeur. Mais non, il avait l'air concentré, intense, parce que je pense qu'il y a beaucoup de travail, Claude et tout son personnel d'entraîneur.
Ouais, ben tu mentionnes les trios. Tout le monde a été, je pense, emballé par les changements de trio qui ont été faits à mi-chemin dans la série face aux Penguins de Pittsburgh, de revoir, par exemple, de voir Suzuki et Kotkaniemi se faire donner les clés de l'attaque, en quelque sorte, puis d'avoir Philippe Dano au sein d'un trio un peu plus défensif qui est potentiellement très, très efficace, puis il l'a été, ça a été le meilleur trio du Canadien dans le match 4 contre les Penguins. Mais là, je serais curieux de t'entendre, de savoir si ces trios-là sont véritablement ceux qui vont être les mieux adaptés pour affronter une équipe qui est... c'est ça, on parlait de polyvalence, de diversification de l'attaque. C'est pas du tout le même animal que les Penguins de Pittsburgh. Est-ce que tu penses que les changements qui ont été apportés puis les nouveaux trios qui ont été faits chez le Canadien, ça continue d'être les bons face aux Flyers?
Ben, je sais pas si ça continue d'être les bons. En fait, je suis pas certain que ça l'est. Je serais un peu surpris de voir Claude Julien les changer dans le premier match, étant donné quand ça allait tellement bien contre Pittsburgh. Mais c'est vrai que la donne a changé. Il y a plus le dernier changement. C'est ce qu'il avait quand il a formé ces trios-là à mi-chemin du match 3 contre Pittsburgh. Il n'a pas ça. Et c'est encore une fois, je trouve qu'il y a une manière pour Claude Julien de vraiment équilibrer ses propres trios beaucoup plus. D'une façon que pour impliquer Max Domi un peu plus dans l'attaque, il a besoin de quelqu'un à un aile au moins, qui est un joueur qui a des talents qui pourraient complémenter un peu ce que Max Domi est capable de faire en ce moment. Il n'y a pas ça. Je pense que Claude Julien serait très avantagé de lui donner un ailier, un Yoel Armia, ou même un Paul Byron, ou quelqu'un pour que Max Domi puisse jouer avec lui, parce qu'en ce moment, il a l'air vraiment, vraiment seul. Puis Claude, il aime dire qu'on va avoir besoin des quatre lignes d'attaque pour avoir aucune chance à gagner la série. Mais contre Philadelphie, je pense que c'est encore plus vrai que ça l'était contre Pittsburgh. Et avec la façon que le quatrième trio est formulé en ce moment, je suis pas convaincu qu'il a cette attaque à quatre trios, cet équilibre sur quatre trios. Puis je pense qu'il y a besoin de former vraiment des duos en attaque sur chaque trio. Puis complémenter ça avec des joueurs comme un Belzile ou un Weiss ou qui que ce soit qui serait un peu plus un grinder sur ce trio-là. Mais c'était bien les changements qu'il a fait contre Pittsburgh, mais il y a besoin d'impliquer le quatrième trio encore plus qu'il l'a fait contre Pittsburgh.
Ben écoute, à l'heure actuelle, je pense que Max Domi, c'est un peu du gaspillage là, ce qui arrive, la façon dont il est utilisé. C'est pas un joueur parfait, mais c'est un joueur qui a quand même plus à donner que les 9 minutes qu'il a donné dans le quatrième match face aux Penguins. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Surtout que là, le Canadien va avoir besoin de production secondaire. Ben, pas seulement secondaire, mais une production primaire. Mais sauf que Tu regardes dans la série face aux Penguins, Tatar et Gallagher n'ont pas nécessairement été ceux qui ont rempli le filet le plus pour cette équipe-là. Je pense qu'ils vont devoir en donner un peu plus, produire davantage face aux Flyers, mais tout va dépendre aussi des confrontations. Puis je pense que la meilleure façon pour le Canadien de se soustraire de ça puis d'être capable d'échapper aux confrontations qu'Alain Vigneault va vouloir leur mettre dans les pattes, surtout dans les deux premiers matchs, c'est probablement justement en équilibrant les forces puis en se rendant peut-être pas à chercher autant des trios que de chercher des duos sur quatre lignes. Alors, c'est pour ça que quand tu me parles de peut-être d'envoyer un gars comme Paul Byron aux côtés de aux côtés de Max Domi. Peut-être que ça donnerait un peu d'oxygène à Domi, puis ça permettrait de rendre le quatrième trio d'une part un peu plus menaçant, puis ça permettrait aussi d'équilibrer le temps de jeu, peut-être pour éviter de trop en donner à Suzuki ou pour éviter de laisser le trio de Kotkaniemi dans des situations peut-être qui seraient plus périlleuses avec des débuts de présence en zone défensive comme il ne voudrait pas nécessairement. Mais sauf que le nombre d'attaquants qui sont à la disposition de Claude Julien pour pouvoir faire ça est très, très limité. Fait que on reconnaît le problème, mais la solution, elle, n'est pas évidente.
Non, je suis d'accord, mais c'est encore une raison de plus pour Claude d'essayer d'aider les attaquants qu'il a. Tu mentionnes un gaspillage de Max Domi, je suis d'accord. Écoute, on connaît les carences de Max Domi. Il est loin d'être parfait. Il est pas le joueur le plus inspiré en zone défensive, disons. Mais c'est quand même un joueur qui a beaucoup de rapidité. Il peut mettre beaucoup de pression sur les défenseurs adverses. Peut créer des choses en zone offensive. A une super belle vision de jeu. Peut créer des chances de marquer, mais il a besoin d'un tireur avec lui. Paul Byron n'est pas nécessairement le gars. Peut-être un Armia serait mieux placé pour être un tireur, mais il a besoin de quelqu'un pour tirer à la rondelle parce qu'il est très bon pour trouver des gars dans des espaces inattendus, disons. Tu sais, Max Domi, une de ses forces à mes yeux, c'est qu'il fait pas toujours le jeu évident. Et des fois, cette tendance-là le met dans le trouble, mais il est capable de penser autrement, puis trouver des choses que ni ses coéquipiers, mais ni les joueurs adverses s'attendent tout le temps. Mais c'était frappant combien de fois il a fait une passe à Derwis, puis Derwis s'attendait juste pas que la passe arrive. Ouais. Il est juste pas prêt pour jouer avec un gars comme Max Domi. Alex Belzile non plus. Écoute, les deux gars, on voit leur qualité, là, tu sais, c'est comme ils travaillent fort. Sont capables de récupérer des rondelles. Avoir un gars comme ça sur un trio avec Max Domi, ça a beaucoup de sens. Il a un rôle clair et net et va me chercher la rondelle, va au filet, va faire toutes les petites choses qu'un trio a besoin pour bien fonctionner. Mais avoir deux gars comme ça avec Max Domi, ça commence à être difficile. Et effectivement, vu qu'il n'y a pas plein de choix, tu sais, comme Alain Vigneault, il y a du choix en masse. Tu sais, il y a des attaquants il y a l'embarras du choix. Claude Julien, il l'a pas. Alors, c'est pour ça que je pense que ça serait vraiment cool. Tu sais, je veux pas nécessairement qu'il prenne mon idée, mais le principe du texte que j'ai fait pendant la série contre Pittsburgh, de vraiment complètement équilibrer les trios, séparer Gallagher et Tatar et Dano, mêler sur trois trios différents, donne de l'aide à Domi et avoir un joueur sur peut-être chaque trio qui est peut-être pas super offensif, mais vraiment, et puis roule tes lignes comme pour vrai, là. C'est honnêtement 1-2-3-4, 1-2-3-4, 1-2-3-4 pendant tout le match, éviter le banc de punition. Et là, le Canadien peut-être va avoir une chance, comme peut-être. Mais une chose que je voulais mentionner, c'est que les Canadiens sont rendus ici et c'est quand même assez extraordinaire qu'ils se sont rendus en série sans avoir marqué un but en jeu de puissance, sans que Jonathan Drouet fait vraiment rien. Dans le fond, il y a eu un bon demi-match au match 3, c'est tout. Sans que Tatar marque un but, sans que Gallagher fait grand-chose. Tu sais, il y a quand même les forces du Canadien, ils sont pas là encore. Ils ont quand même réussi à battre les Pingouins avec toutes ces choses-là qui sont vraies. Alors, il faut croire pour le Canadien, ou il faut espérer au moins, que jeu de puissance se met à fonctionner. Puis je pense que honnêtement, ça commençait à s'améliorer au fur et à mesure que la série contre les Pingouins s'avançait. Mais je peux pas croire que Tatar va pas marquer un but. Il y avait des chances, là, puis c'est pas comme s'il travaillait pas fort, puis il y avait des opportunités, il le mettait juste pas dedans. Et alors, si toutes ces choses-là arrivent, parce qu'ils ne sont pas arrivés encore, les Canadiens, tout d'un coup, à l'air d'une équipe différente, là, si Jonathan Drouin se met en marche tout d'un coup, je sais que tout le monde s'en doute, puis tout le monde pense que c'est un gars qui... Mais écoute, c'est un gars avec plein de talent. C'est un gars qui peut faire une différence dans une série, puis on n'a pas vu le meilleur de lui non plus. Alors le Canadien a beaucoup de choses qui n'ont pas démontré encore, qui pourraient se révéler, qui pourraient se réveiller, je veux dire, contre les Flyers. On verra, mais ils ont besoin que certains des éléments qui ont été un peu plus discrets à date se réveillent puis s'imposent contre les Flyers pour que le Canadien ait une chance.
Ouais, puis sauf qu'il faudrait que ce soit certains de ces éléments-là, mais si on attend que tout clique, moi, il y a une chose au fil des ans que j'ai compris en couvrant le hockey, c'est que il y a jamais rien, tout ne clique jamais en même temps. Tu sais, quand il y a quelque chose quand il y a une lumière qui s'allume à quelque part, il y en a une autre qui s'éteint. Alors, si on attend le moment où toutes les conditions gagnantes vont être réunies, puis tu dis, ah ben là, si telle personne fonctionne à son plein rendement, qu'il y a l'avantage numérique, l'infériorité numérique, le gardien, etc., il y a toujours des éléments qui vont manquer. Là, pour l'instant, il y en a ceux qui sourient aux Canadiens, que ce soit le rendement de ces jeunes joueurs de centre, que ce soit l'excellente tenue de Carey Price, l'infériorité numérique qui a quand même fait du bon travail. Il y a des éléments en place, mais ça en prend un ou deux éléments de plus. Je suis d'accord avec toi. Je pense que Jonathan Drouin, ce serait une belle surprise qui puisse s'affirmer davantage dans cette série-là. Mais ce qui est intéressant, puisque tu mentionnes le fait que l'avantage numérique du Canadien va donner des signes encourageants, de l'autre côté, les Flyers non plus n'ont pas un avantage numérique qui est dévastateur. Puis c'est drôle parce que là, c'est la deuxième série de suite où le Canadien pourrait se retrouver face à un adversaire qui cherche un petit peu ses repères sur l'attaque à 5. Puis ça fera en sorte que si carrément tu te dis, ben là, au moins les deux équipes ont de la misère sur l'attaque à 5, ben ça s'annulerait un petit peu. Durant la ronde préliminaire, les trois matchs que les Flyers ont disputé, et ils ont été, écoute, en tout, je crois qu'ils ont eu quelque chose comme 6 ou 7 tirs au but. Après les deux matchs, en 8 supériorités numériques, il y avait seulement 4 tirs au but. Et puis, ils ont terminé 0 en 3 dans le troisième match. Donc, c'est une équipe qui, à ce niveau-là, se cherche. Quand on a parlé à Alain Vigneault aujourd'hui, il a dit, ben au moins, il nous reste encore 2 journées d'entraînement pour pouvoir nous organiser un petit peu à ce niveau-là. Sauf que c'est pas nécessairement l'avantage numérique d'antan des Flyers qui était si dévastateur. Donc, eux autres aussi, ils ont des lumières qui sont allumées, ils ont des lumières qui sont fermées. Mais ce qui est certain, c'est quand tu regardes les deux formations, le Canadien, vraiment, là, va avoir besoin de tout son petit change pour venir à bout de cette équipe-là.
Oui, puis il y a une autre chose que, si j'étais le Canadien, ce serait inquiétant, c'est que 40% des buts marqués par le Canadien contre les Pingouins venaient de leurs défenseurs. Ils ont eu 4 buts.
Oui.
Et tu sais, c'est une bonne chose. Tu sais, Shea Weber a eu 4 points. Un, c'était un but dans un filet désert, mais quand même, c'est impliqué Jeff Petrie, évidemment. Même Ben Sherratt, je trouvais, il était très efficace en zone offensive. Brett Kulak, qui faisait des percées en zone offensive tout le temps. Et puis, il y avait Victor Mété l'autre jour, dimanche, qui parlait du fait que il commençait à se sentir plus confortable pour s'impliquer à l'attaque. Tu sais, c'est comme les Flyers en ce moment, là, ce sont une machine. Ce sont une machine d'offensive. Tu sais, il n'y avait personne. Tu sais, depuis, tu sais, les Canadiens, ils ont battu les Flyers le 16 janvier à Philadelphie. Depuis ce temps-là, les Flyers avaient le meilleur fiche de la Ligue nationale. De ce moment-là jusqu'à la fin, jusqu'à la suspension du jeu en mois de mars. Mais non seulement ça, mais personne n'avait marqué plus de buts que les Flyers dans ces périodes-là, dans ces 21 matchs-là. C'était vraiment devenu une puissance offensive. Ça continuait dans le tournoi à la ronde contre des équipes qui sont quand même les meilleures équipes de l'Association de l'Est, tu sais, Boston, Tampa et voyons, c'est qui le troisième là? C'est
Washington.
Et Washington, désolé, oui, mais tu sais, c'est comme c'est une équipe qui a l'air de juste trouver leur chemin, tu sais, ils ont trouvé quelque chose, puis ça marche, ça continue, puis c'est quand même, il y a 3 entraîneurs en chef derrière le banc des Flyers de Philadelphie, ouais. Tu sais, ce qui est quand même particulier. Je me rappelle pas avoir vu 3 gars qui ont déjà passé longtemps comme entraîneurs en chef, pas des gars qui étaient entraîneurs en intérim, là, tu sais, Mike Yeo, Michel Therrien, évidemment, à Montréal, puis à Pittsburgh, puis Alain Vigneault. Alors, il y a beaucoup d'expérience, puis il y a beaucoup d'intelligence derrière le banc des Flyers, puis je pense qu'ils ont trouvé une formule qui fonctionne vraiment très bien pour leur équipe, là.
Je pense que la dernière fois qu'on a vu ça, c'est avec Tampa, où en plus de John Cooper, il y avait Rick Bowness et Todd Richards, qui étaient ses assistants. Ouais. qui étaient donc deux anciens entraîneurs-chefs. Évidemment, depuis ce temps-là, Bonus, et lui est redevenu entraîneur-chef avec les Stars de Dallas. Mais c'est vrai qu'il y a, énormément d'expérience. Puis ça aussi, je pense que pour le public québécois, puis pour la potentielle rivalité entre les deux équipes, c'est le fun d'avoir des personnages comme Vigneault et Therrien du côté des Flyers. Je ne sais pas si on va avoir l'occasion de parler à Michel Therrien durant cette série-là, mais sauf que Alain Vigneault, il y a un petit côté, mon Dieu, un petit côté casual, expérimenté, très, très sûr de lui, qui il est de commerce très, très agréable. Puis tu parlais tout à l'heure du fait que Claude Julien avait l'air sur les nerfs la dernière fois qu'on lui a parlé en fin de semaine. Alain Vigneault a jamais dégagé ça. Il a toujours été un gars qui a été parfois agacé, peut-être, parfois un peu impatient, mais de manière générale, c'est un gars qui a l'air d'instaurer chez ses joueurs un sentiment de calme et de contrôle, qui a toujours souri à ses équipes. C'était vrai avec les Canucks, puis c'était vrai par la suite avec les Rangers. Et puis, je trouve que ça ajoute une belle épice à cette série-là que d'avoir Vigneault et Therrien derrière le banc.
Ben, en fait, ce que je trouve intéressant là-dedans, c'est que, tu sais, évidemment, Carey Price a gagné son affrontement contre Matt Murray et Tristan Jarry. Il y a quelques joueurs des Canadiens qui ont remporté leur affrontement aussi, là. Mais le gars qui était le plus définitif dans la façon dont il a remporté son affrontement, c'est Claude Julien, à mon avis. Contre Pittsburgh, Claude a pris les bonnes décisions. Mike Sullivan les a pas pris, ou il les a pris trop tard, ou c'était vraiment Claude Julien qui a eu le dessus sur Mike Sullivan dans cette série-là. Et je vais être intéressé à voir, tu sais, je pense qu'il va avoir beaucoup d'ajustements d'un bord et de l'autre, mais ce qui m'intéresse le plus en ce moment, c'est le premier match. Le Canadien aura eu, tu sais, ils ont eu quand même 5 jours de repos depuis la fin de leur série contre Pittsburgh, quand on est rendu à mercredi soir, une fois rendu à mercredi soir. Mais, tu sais, ils ont quand même, ils sont déjà en mode série. Ils ont déjà affronté la même équipe 4 fois. Les Flyers n'ont pas fait ça. Tu sais, il y avait les Bruins, Tukaras, qui parlaient du fait que, maintenant, on va jouer au vrai hockey, puis Brad Marchand qui appelait ça des matchs pré-saison. Tu sais, c'est pas toutes les équipes contre qui les Flyers, il y a aucun doute. Les autres, ils étaient prêts, là. Ils jouaient comme si c'était les séries. Mais les Capitals, particulièrement les Bruins, tu sais, ces équipes-là n'avaient pas ce sentiment d'urgence, n'avaient pas cette intensité-là. Alors, les Canadiens ont vraiment une opportunité dans le premier match de vraiment prendre les Flyers un peu par défaut, puis vraiment montrer, OK, c'est ça le niveau qu'il faut atteindre en série. Puis le premier match de la première ronde en série à chaque année, souvent c'est les deux équipes qui sont en train de faire ça, puis ça se voit. Tu sais, ça s'accumule match après match, mais ça se fait en même temps. Et c'est ça qui est cool de la première ronde, c'est des équipes, tu sais, disons, un peu plus faibles contre des équipes fortes et whatever, mais ce niveau d'intensité-là, qu'on le voit grimper, peu par peu, après première période, troisième période, premier match, deuxième match, troisième match, et le fait que ça se fait ensemble, je trouve ça, c'est un élément des séries qu'on risque de pas avoir cette fois-ci, au moins dans le premier match. Tu sais, je pense que Philadelphie va falloir qu'ils font un peu de rattrapage, puis ça se peut que le match va commencer, puis Philadelphie est comme « wow ». C'est pas ça qu'on a vu dans le round robin tantôt, là. C'est pas ça qu'on a vu contre Boston. Alors, le Canadien doit vraiment prendre avantage de ça. Si c'est vraiment une vraie chose, si Philadelphie va être comme un demi-pas en retard, le Canadien doit absolument prendre avantage de ça et remporter le premier match. Si c'est bel et bien le cas, ce qui est pas garanti non plus, Philadelphie a l'air super concentré et prêt à jouer aussi, là.
Ouais, mais je pense que si le Canadien veut se donner une chance de gagner cette série-là, ça commence par le premier match. S'ils se mettent dans le... S'ils commencent la série en déficit, en perdant la première rencontre, ça risque d'être beaucoup plus problématique par la suite de pouvoir se remettre dans le coup. Je pense que, évidemment, la situation est différente par rapport au tour préliminaire, parce que là, on parle d'un 4-7 et non pas d'un 3-5, puis le premier match dans le cadre d'un 3-5 était tellement crucial. Il y a plus d'occasions dans un 4-7 de se remettre d'une défaite dès le premier match. Mais je pense que pour exactement pour la raison que tu as expliqué tout à l'heure, à cause du peut-être de l'ajustement que le Canadien a déjà fait au niveau de son du niveau de jeu qui est nécessaire à apporter puis du niveau d'urgence, il y a une belle occasion devant lui. Et si c'est pas le cas, ben là il va être en rattrapage puis ça pourrait rapidement lui glisser entre les mains. Je pense et pour cette raison-là, s'il y a un match où Carey Price doit continuer de montrer qu'il a le niveau qu'il a affiché face aux Pingouins, c'est vraiment lors du premier match. Puis, et pour cette raison-là, parce que Carey Price va devoir continuer d'être un élément fondamental des succès du Canadien, même si les Flyers ont marqué beaucoup de buts dans les derniers mois, avant la longue pause, là, je m'attends à ce que le Canadien essaie de fermer le jeu, de limiter leur attaque, puis qu'on se ramasse peut-être avec des scores qui soient un peu plus bas que ce à quoi on pourrait s'attendre.
Oui, mais je pense que Philadelphie, là, c'est aussi juste à cause, c'est devenu quand même un peu une machine à l'attaque, là. Alors, je pense que ça serait dans l'intérêt du Canadien de garder ça, le jeu fermé. Puis vraiment garder le jeu comme on l'a vu dans le match 4 et un peu dans le match 3 aussi après que les Pingouins ont pris une avance de 3-1, là. On voyait souvent 5 chandails rouges directement devant Carey Price. Il y avait pas beaucoup de deuxième opportunité pour Pittsburgh dans le quatrième match à cause de ça. Les tirs venaient de loin, il y avait pas beaucoup de tirs qui venaient de l'enclave à cause de ça. Et je pense que c'était une bonne stratégie, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vu de la part du Canadien pendant la saison régulière. Une autre chose qu'on n'avait pas vu de la part du Canadien, c'est un match quasiment sans des 2-1 ou des 3-2. Tu sais, je me rappelle d'un contre Pittsburgh dans le quatrième match, puis Jeff Petrie l'avait joué parfaitement, mais honnêtement, il y avait pas d'erreur dans la zone neutre, et c'est ça vraiment que le Canadien va falloir qu'il fasse et utiliser leur rapidité pour créer des revirements, et c'est ça qu'ils ont pas vraiment fait contre Pittsburgh. Ils ont pas pu alimenter leur attaque en forçant des revirements en zone neutre. C'est ça qu'il faut faire contre Philadelphie. Et de l'autre bord, il faut absolument qu'ils protègent leur meilleur atout. Tu sais, c'est comme, il me semble contre Pittsburgh, à un moment donné, Montréal s'est dit, OK, Carey Price, il joue comme il le fait. C'est lui qui va nous donner la victoire. On va le protéger à tout coup. Nous, on aura notre but à un moment donné, là, mais on va rien donner. Et c'est ça la mentalité que je pense que le Canadien doit avoir parce que contre Philadelphie, ça va être un aussi gros défi que ça l'a été contre Pittsburgh.
On prend une pause pour vous dire que le Super Athletic vous est également présenté par Manscaped, le leader dans le domaine des soins pour hommes sous la ceinture. Manscaped vous propose des outils de la plus grande précision pour s'occuper de vos bijoux de famille. Alors, obtenez le rasoir qu'il vous faut pour aller là où, Dieu merci, le barbier ne va pas. Manscaped vient tout juste d'être lancé au Canada, donc, chers auditeurs, vous pouvez être parmi les premiers à faire l'expérience de produits qui vont changer votre vie. Oui, c'est pas tout le monde qui aime avoir un grand terrain, sortir sa tondeuse puis son coupe-bordure, mais quand il s'agit de soins personnels, ça vaut la peine. Manscaped a lancé son Lawnmower 3.0 qui est fait exprès pour réduire les accidents de rasage. Et en plus, il y a une technologie résistante à l'eau qui vous permet de l'utiliser dans la douche. Non seulement la pile dure jusqu'à 90 minutes, mais c'est possible de recharger le Lawnmower 3.0 avec une prise USB. Alors, profitez de 20% de réduction et de la livraison gratuite en utilisant le code THEATHLETIC20 sur manscaped.com. Manscaped, c'est 20% de réduction avec la livraison gratuite sur manscaped.com. Vous avez juste à utiliser le code THEATHLETIC20. Et pour un temps limité, les abonnés ne reçoivent pas un, mais deux cadeaux gratuits. Le sac de voyage Shed, d'une valeur de $39, et le caleçon boxeur Manscaped, haute performance qui est brevetée contre les frottements. Alors rendez-vous sur manscaped.com dès aujourd'hui et utilisez le code THEATHLETIC20. Je pense que dans tout ça, il y a un élément qui est aussi donné un peu plus inconnu, ça va être la performance de Carter Hart devant le filet. Carter Hart va avoir quoi, 22 ans cette semaine. Son idole, c'est Carey Price. Et puis là, ben, il se présente, il commence une série où il va affronter son idole. Et on le sait, là, Carter Hart a eu des débuts dans la Ligue nationale sensationnels. Il s'est établi comme gardien de but numéro un des Flyers, mais j'ai hâte de voir de quel bois il se chauffe en séries éliminatoires et s'il va être capable de d'être à la hauteur de la situation. Parce que c'est pas toujours. Je pense que ce serait réducteur de dire que c'est des duels de gardiens, que c'est un gardien contre un autre. C'est deux équipes. Sauf que lui doit être capable, malgré tout, de faire valoir son point de vue puis de vraiment de mettre son point sur la table. Parce que la structure défensive des Flyers est somme toute assez bonne. C'est une équipe qui ne donne pas beaucoup de lancers puis qui maintient les adversaires en périphérie de manière générale. Mais lui, ça va être une clé aussi de leur côté. Fait que j'ai bien hâte de voir comment il va se comporter par rapport à Price.
Oui, c'est sûr. Puis j'ai hâte de voir aussi s'il va être capable de gérer. Tu sais, c'est un défi pour un gardien d'affronter Carey Price parce que, tu sais, quand tu vois les chances que tes coéquipiers sont capables de générer, puis ils ne rentrent pas dans le filet, tu sais, ça, à chaque fois que Carey Price fait un gros arrêt ou tu sais, il permet pas de but après une longue présence en zone du Canadien. T'sais, l'autre gardien est en train de dire t'sais, que ma marge de manœuvre est vraiment mince. Là. T'sais, c'est comme, ça va être difficile cette soirée-là. Il va falloir que je fais la même chose. J'aurai pas le choix. Si lui joue comme ça, il faut que je joue de même. Et c'est pas tous les gardiens qui sont capables de répondre dans cette situation-là. C'est pas tous les gardiens qui prennent ça comme une motivation, comme quelque chose de motivant. Il y a des gardiens qui doivent prendre ça puis dire est-ce que je suis capable de faire ça? C'est Carey Price quand même de l'autre bord là, c'est pas puis le plus que Carey Price vieillit, le plus qu'il y a des gardiens comme Carter Hart dans la ligue qui voient Carey Price comme un peu une idole, quelqu'un qu'ils ont regardé pendant en grandissant et c'est possible. C'est pas garanti, c'est loin de là, mais c'est possible. On sait pas comment Carter Hart va réagir dans cette situation-là. Mais s'il rentre dans un jeu où, disons, la première période, Philadelphie domine le Canadien, ils sont dans la zone constamment, puis après 20 minutes, c'est 0-0. Puis tout d'un coup, le Canadien sort en deuxième période, puis dans les trois premières minutes, il marque contre Carter Hart. Comment il va gérer cette situation-là? Comment il va, mentalement, comment est-ce qu'il va être capable de se remettre de ça après avoir regardé Price, c'est rien permettre pendant 20 minutes. Tu sais, il y a des particularités dans un affrontement de gardiens parce que oui, c'est équipe contre équipe, mais les gardiens eux-mêmes, ils voient ça comme moi contre lui. Souvent.
Ouais.
Beaucoup de gardiens, ils voient ça de même. Et quand tu vois Carey Price qui joue comme ça, quand t'as 22 ans, puis c'est son idole, je sais pas. Ça va être intéressant de voir comment il réagit.
Ouais, puis ça peut aller d'un côté comme de l'autre. Il peut se laisser déranger ou ça peut être un niveau de motivation supplémentaire qui le pousse à élever son jeu, tu sais. Et si c'est le cas, ben là, c'est le Canadien qui va en faire les frais. Ça sera pas évident. Mais dans tout ça, Arpin, qu'est-ce que tu vois comme étant la meilleure porte de sortie pour le Canadien, leur meilleure chance de gagner, au-delà de Price, là? Elle est où?
La meilleure chance des gardiens, c'est honnêtement que toutes les choses qu'on a nommées tantôt commencent à cliquer. T'sais, Jonathan Drouin trouve un autre niveau de son jeu. Thomas Tatar commence à marquer des buts. Brendan Gallagher commence à marquer des buts. Et dans le fond, ce qui est difficile là-dedans, c'est que toutes ces autres choses doivent commencer à cliquer sans que l'autre lumière s'éteigne. Là. T'sais, la structure défensive doit rester la même. Kotkaniemi et Suzuki doivent continuer à performer à un haut niveau. Mais les gars qui étaient un peu moins là, s'ils se rajoutent au gang qui joue bien, là, c'est ça que ça va prendre. Écoute, ça, c'est peut-être pas réaliste, là, mais le Canadien peut pas avoir de passagers dans cette série-là. Les Pingouins l'ont permis de le faire et ça leur a coûté seulement un match. Mais contre les Flyers, j'ai l'impression que les passagers, là, on peut pas avoir Claude Julien après un match qui dit on avait des passagers ce soir. Si ça arrive aux Canadiens, ils sont cuits, là, c'est certain.
Moi, quand Claude Julien a dit ça après le deuxième match, je pensais vraiment que le Canadien était dans le gros trouble parce que tu dis les équipes de la Ligue nationale n'ont pas joué pendant des mois. Ils reprennent l'action dans un moment où chaque match est un enjeu énorme. Et puis après deux matchs, tu vas dire que ton équipe manque de détermination, manque de volonté, puis qu'il y a eu des passagers. Je trouvais que ça c'était de bien mauvaise augure pour le Canadien. Puis ça a été encourageant de voir que ils ont trouvé une façon de se remettre dans le coup après ça. Sauf que ils ont joué avec le feu. Puis je pense que c'est une opportunité que les pingouins n'ont pas sauté. Mais je pense qu'ils peuvent pas commettre cette erreur-là deux fois parce que les Flyers me semblent beaucoup plus aguerris. Tu sais, les pingouins, c'était des... Ils ont des noms, ils ont des... tu sais, c'est une entité connue, tandis que les Flyers, je pense que c'est une équipe qui est une puissance en développement encore. C'est une puissance qui est en train d'émerger, sauf que les gens pensent pas nécessairement aux Flyers en disant « Oh, quelle puissance de la Ligue nationale! » Sauf que ils sont en train de placer leur pion pour plusieurs années de très, très haute compétition. Puis idéalement, je pense que ça, si ils jouent leur carte comme il faut, ils vont pouvoir continuer d'être compétitifs au-delà des meilleures années de Claude Giroux. Sauf que au moins ces années-là, avoir toute une nouvelle vague d'attaquants qui suivent derrière, des plus jeunes. La vague de jeunesse en défense est déjà arrivée, puis c'est des gars qui font du bon travail, Travis Sanheim, Ivan Provorov, Philip Myers. Mais j'ai l'impression qu'on va voir au cours des prochains jours une équipe qui va vouloir, comme on dit en anglais, faire un statement puis montrer que est arrivé là, puis que c'est pas simplement une erreur de parcours que de les retrouver là.
Ouais, puis non seulement ça, mais pour les partisans du Canadien, je pense que tu peux regarder les Flyers comme étant une équipe qui ont eu du succès en faisant un reset comme Bergevin tente de faire. Tu sais, c'est comme ils se sont pas débarrassés de tous leurs vétérans. Quelques-uns, oui, mais Claude Giroux est encore là. Voracek est encore là. Ils ont ramené James Van Riemsdyk comme joueur autonome. Mais, tu sais, il y a quand même un peu une dynamique un peu similaire de ce que les Canadiens sont en train de vivre maintenant. Et tu sais, je regarde Boston, je regarde Philadelphie. Il y a certains exemples dans la ligue où les DG ont fait un peu ce que Bergevin tente de faire avec les Canadiens. Ils l'ont juste pas appelé un reset ou un whatever, quelconque nom que tu veux donner là. Mais c'est vrai que Philadelphie a quand même réussi à le faire. Tu sais, Travis Konecny, c'est tout un joueur dans la Ligue nationale. Sean Couturier, il rentre dans le fleur de l'âge. Ivan Provorov est un des meilleurs jeunes défenseurs de la Ligue. Il est complètement sous-estimé en ce moment. Carter Hart est jeune. Ils ont des joueurs clés, des positions clés qui sont jeunes, mais ils ont des vétérans pour les épauler. Ils ont amené Kevin Hayes comme joueur autonome cette année. Pas le meilleur contrat au monde, mais quand même, il fait le travail, il fournit ce que Philadelphie voulait de lui, et stabilise vraiment leur deuxième trio, puis offre une support offensive au premier trio. Et pendant la série, tu sais, honnêtement, je pense honnêtement que Philadelphie va remporter la série, mais je pense que les partisans du Canadien de Montréal devraient regarder Philadelphie puis dire, OK, ça pourrait ressembler un peu à ce que nous, on va être dans quelques années. Parce que nos jeunes sont... Les jeunes du Canadien sont pas tous là, encore. Mais, tu sais, les Flyers ont très bien fait au repêchage. Tu sais, il y a un Joe Farabee qui peut insérer dans l'alignement un peu partout, là. Puis, c'est vraiment... Je trouve que Philadelphie et Boston sont comme les deux modèles que Bergevin essaie de suivre, là. Puis là, les partisans du Canadien vont avoir une chance de vraiment regarder un de ces deux modèles-là de très près pendant la série.
La différence, par exemple, avec les Flyers, c'est qu'au plein milieu de leur reset, ils ont changé de directeur général.
Oui, ça c'est vrai. Puis effectivement, ils ont changé de directeur général parce qu'ils trouvaient qu'il allait trop lentement, qu'il avait trop de patience. C'est ça qui est intéressant. Puis Chuck Fletcher arrive, puis qu'est-ce qu'il fait? Il donne un gros contrat à Kevin Hayes tout de suite, puis c'est ça. C'est des différences de philosophie, mais honnêtement, là, moi, peu importe ce qui arrive dans cette série-là, et peu importe combien de temps le Canadien reste en série, là, moi, je m'attends à ce que Marc Bergevin devienne moins patient pendant la saison morte qui s'en vient. C'est la patience de Marc Bergevin, ben, dans le sens où il veut accélérer ce processus-là. T'as pas ce sentiment-là que tu sais, le temps presse un peu, tu sais, Carey Price, il va avoir 33 ans dans quelques jours, tu sais, c'est quand même...
C'est... Oh, pour moi, oui. Pour moi, je la vois, cette urgence-là, puis je la ressens, sauf que je sais pas jusqu'à quel point le directeur général, lui, juge que c'est important de laisser de côté justement la patience dont il a fait preuve depuis tant de temps, et puis de peser sur l'accélérateur, tu sais. Parce que il y en a qui sont des jardiniers, puis ils vont dire, bon, on va arroser nos plantes, on va laisser le soleil faire la job, puis ça va grandir, ça va prendre le temps que ça prend pour grandir, tu sais. Mais sinon, tu peux mettre des engrais, mon allégorie est peut-être mauvaise.
Je comprends, là, mais je pense que Marc Bergevin est pas dans une... Tu sais, Jeff Molson a rendu ça clair, il veut une équipe compétitive plus tu sais, que ça soit plus proche que loin, le niveau de compétitivité des Canadiens. Je pense que Marc Bergevin lui-même, à un moment donné, tu sais, tu peux pas avoir... une trentaine de choix au repêchage qui sont dans ton système, puis ils ont tous besoin de contrats. À un moment donné, t'as trop d'espoir, puis les Canadiens sont presque rendus là. Alors moi, tu sais, on s'est éloigné un peu de la série, mais c'est vrai que les Flyers, la saison passée ou l'été passé, ils ont fait des gestes qui suggéraient qu'ils croyaient qu'ils étaient plus proches que la plupart du monde pensait. Et j'ai comme l'impression que Marc Bergevin va peut-être faire la même chose pendant cette saison morte, même si les Canadiens battent les Flyers, même si les Canadiens se rendent en finale. Tu sais, je pense que l'évolution de son équipe et l'évolution de ses actifs fait en sorte que c'est cette saison morte que je trouve que Marc Bergevin va frapper, tout comme les Flyers l'ont fait pendant l'année passée. Mais et là, ça porte fruit. En Philadelphie. Alors, si jamais Marc Bergevin ne savait pas quoi faire, peut-être qu'il regarde Philadelphie, il va regarder l'équipe tout au long de cette série-là, puis dire, OK, peut-être c'est le temps d'accélérer le processus un petit peu.
Ben, surtout dans le contexte économique dans lequel la Ligue nationale se retrouve, puis des équipes qui vont être un petit peu avoir les mains liées à cause du plafond salarial. Ça, c'est le genre de dossier auquel... Le support athlétique va avoir amplement de temps après coup pour on va avoir amplement de temps pour aborder ça. Mais écoute, en terminant un peu, je voulais simplement, puisque tu mentionnes Bergevin, là ce soir c'est la deuxième loterie de la Ligue nationale, donc qui va déterminer quelle équipe va mettre la main sur Alexis Lafrenière. Je sais qu'il y a plusieurs fans qui espéraient que le Canadien perde la phase qualificative pour avoir sa chance de repêcher Lafrenière. Mais j'ai l'impression que l'autre élément qui fait que il y a des partisans qui hésitent à l'idée de voir le Canadien aller loin, c'est que il y a peut-être un piège pour le Canadien de si jamais il a un quelconque succès en séries éliminatoires, j'allais dire ce printemps, mais cet été, il y a peut-être un piège de se croire meilleur qu'il est, c'est-à-dire de prendre les résultats de ce qui s'en vient, si par exemple ils parviennent à battre les Flyers de Philadelphie et à continuer leur route après coup, puis de tirer des conclusions qui, à quelque part, pourraient peut-être être erronées, puis pourraient peut-être être pas tout à fait les bonnes à cause de l'environnement des particuliers des séries éliminatoires. Je ne sais pas si tu comprends ce que je veux dire, mais j'ai l'impression que il y a une certaine crainte chez les partisans de dire, bon, ben là, si le Canadien fait un petit bout de chemin, Bergevin va dire, bon, ben parfait, on est en voiture, notre équipe va bien, non. On continue comme ça, puis on est là où on veut être.
Non, je pense pas que ça risque d'arriver. Écoute, je pense que ce que ces séries-là offrent à Marc Bergevin puis son personnel dans l'état-major du Canadien, c'est une opportunité en or d'évaluation. Tu sais, il y a beaucoup de joueurs sur cette équipe-là où je pense que ça serait juste d'évaluer certains joueurs dans cet environnement-là. Écoute, c'est pas un environnement normal des séries. C'est quand même, au niveau de compétition, c'est un environnement de compétition des séries. Il manque juste tous les autres facteurs externes, le voyagement, les foules, tout ça, les médias, tout ça. Mais en termes de ce que tu vois sur la glace, là, c'est une qualité de jeu qui tu pourrais même dire est encore plus élevé qu'en série normalement parce que tout le monde est frais et dispo. Alors,
ouais.
Alors ça offre à Marc Bergevin une opportunité de bien évaluer non seulement ses jeunes joueurs, mais tu sais, un joueur comme Max Domi qui a besoin d'un contrat après la saison, un joueur comme Victor Mété qui a besoin de, qui est jeune évidemment, mais qui a besoin d'un contrat à la fin de cette saison, Tomáš Tatar, Jeff Petrie, Gallagher, Dano, tous ces gars-là qui vont devenir autonomes, Army aussi, Lekkonen, il y a beaucoup de gars qui ont leur contrat qui vient à échéance, puis sans cette opportunité-là, Bergevin et son groupe n'auraient jamais eu un échantillon en série pour évaluer ces joueurs-là. Ce serait tout basé sur leur performance en saison régulière. Mais là, il l'a. Alors, je pense que tous ces joueurs que je viens de nommer, là, ça serait à leur intérêt de ramener. Puis même Jonathan Drouin, là, tu sais, ce serait même à leur intérêt parce que je pense que les Canadiens sont sur le point où on pourrait avoir beaucoup de changements avec cette équipe dans les deux prochaines années parce que à cause de tous ces contrats-là qui viennent à échéance, ça donne une opportunité aux Canadiens de dire « Ok, on a vu ce que ce groupe-là peut faire. » Ouais. C'est ça, on peut se renouveler. Il n'y a pas beaucoup d'argent disponible dans la Ligue nationale. Si on enlève ces contrats-là, tout d'un coup, on a beaucoup de marge de manœuvre sous un plafond salarial qui ne bouge pas. On a cette option-là. Alors, je pense que tous ces joueurs-là devrait réaliser la réalité des choses. C'est à part Kotkaniemi et Suzuki et Romanov et Price et Weber. C'est pas mal les seuls qui n'ont pas cet autre élément-là où leur temps à Montréal, ça pourrait devenir un peu plus court si avec une mauvaise performance. T'sais, à date, Lekkonen est en train de prouver ce que le Canadien sait de lui déjà. Le Canadien l'adore comme joueur et c'était probablement leur meilleur attaquant contre Pittsburgh. Du match 1 au match 4. Là. En termes de constance, là, c'était lui. C'est comme... Il y a plusieurs autres attaquants qui ont cette opportunité-là contre Philadelphie. Même si le Canadien perd, juste de montrer que tu es un gars qui est capable de compétitionner dans cet environnement-là.
Harpin, Alexis Lafrenière s'en va avec les Rangers de New York.
Oui, je vois ça. Puis ben, tant mieux pour lui. Là, ça va être le fun. En fait, la seule chose que je voulais pas, juste pour les partisans du Canadien, je voulais juste pas que ça soit Pittsburgh et tout le monde serait en train de dire « Toi, ça s'est arrêté nous, c'est horrible, baba, ça. » Alors là, ça n'a rien à voir avec le Canadien. Et tant mieux pour Lafrenière et tant mieux pour les Rangers. Les Rangers, j'aime beaucoup ce qu'ils font. En termes de... Eux aussi, qui font un peu un reset comme le Canadien tente de faire, là, mais il le fait très bien. Et là, il vient d'ajouter un autre morceau, un autre gros morceau en Alexis Lafrenière à jumeler avec Panarin. Je sais pas c'est qui va bouger de l'aile gauche, là, mais en tout cas, puis Kaapo Kakko qui est déjà là. Mika Zibanejad qui est sur le point de vraiment devenir une vedette dans la Ligue avec la saison qu'il vient de connaître. Là. Alors, Adam Fox, Trouba, c'est quand même... Ils sont sur le point de devenir une puissance. Là. Puis ça a juste à aider. Alors, toutes les partisans du Canadien qui voulaient que le Canadien devienne une puissance à cause d'Alexis Lafrenière, voilà. C'est les Rangers qui ont été balayés dans leur ronde qualificative. Ils l'ont bien fait ça. Puis ils ont eu une récompense pour pas traîner leurs pattes, pour vraiment dire « Ok, trois matchs, on est out. » On gagne, on gagne la loterie, c'est la récompense des Rangers.
Bon, ben écoutez, tout le monde, merci bien d'avoir été à l'écoute du Super Athlétique. Comme vous pouvez le voir, on augmente la cadence un petit peu, puis on vous en donne un petit peu plus qu'en temps normal, parce que la situation est particulière. Alors, on va vous revenir un peu plus tard cette semaine, une fois qu'il y aura un ou deux matchs de jouer, là, avec l'édition anglophone de The Athletic Support. Alors, merci à tous d'avoir été là. Et puis, Harpin, on se repart bientôt.
On se repart après le premier match de la série Philadelphie-Montréal. Alors, on se voit jeudi.
OK. Bye-bye tout le monde.